Jérémy, bonsoir. Bonsoir Jérémy. Oui, on t'entend pas très bien. Essaye maintenant.
Est-ce que là c'est mieux?
Ouais, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Comment vas-tu Jérémy?
Je vais parfaitement bien, merci beaucoup encore hein, pour l'invitation.
Non, de rien, avec plaisir. Bon, Jérémy, c'est l'auteur d'un bouquin qui vient de sortir, Sortez la banque. Donc, Jérémy, bon, on va parler un peu des finances. Donc, nous, on n'est pas d'experts, mais par contre, tu es un expert. Bon, ce que je voulais te demander d'abord, Jérémy, c'est que tu nous racontes un peu ton parcours. Donc, on revient en 2008, donc quand c'était la crise financière. Et donc et là, il a fallu que tu fasses un choix et tu as choisi d'aller vers le monde des finances. Tu sais nous expliquer un peu ça, pourquoi tu as fait ce choix-là, de partir vers ce monde-là, Jérémy?
Alors, pourquoi est-ce que je suis allé dans ce monde-là? Donc voilà, ben, comme tu dis, en 2008, j'entends parler de la crise des subprimes, donc je suis jeune, j'ai 15 ans. Je m'apprête à commencer mes études et bon, voilà, grâce à quelques facultés en maths, j'intègre ce qu'on appelle donc une classe préparatoire aux grandes écoles. Donc c'est un système en France qui permet de former vraiment les tout meilleurs en maths au lycée pour les grandes écoles d'ingénieurs. Donc je vais là-dedans et c'est vraiment au tout début, voilà, un an ou deux après, une fois que j'y suis, que j'entends parler de la finance et que je vois, enfin voilà, il y a toutes les conséquences en fait de la crise de 2008. Qui sont de plus en plus expliqués. En fait, on voit le chômage, la récession, les coupes dans les services publics, toutes ces choses-là donc, qui émergent en fait, dans les 2-3 ans après 2008. Il y a la crise de la dette grecque en 2010, de la zone euro. Et donc, en fait, c'est vraiment là où j'entends parler voilà, pour la première fois de la finance. Et que la seule chose que je comprends encore là-dedans, malgré donc, la complexité pour appréhender la crise, la chose que je comprends, c'est que la finance, c'est une industrie qui n'est vraiment pas comme les autres, une industrie où, qui un peu gouverne toutes les autres, et, qui ne produit rien en elle-même, mais qui permet aux autres de produire, qui permet aux autres de s'enrichir, qui permet aux autres de fructifier, de prospérer. Et je me dis, bah, voilà, grâce à mes facultés en maths, je me suis dit, autant, et aussi quelques on va dire, sensibilités on va dire, sociales, je me dis autant essayer d'intégrer ce monde pour mieux le comprendre et pour voir comment est-ce que je pourrais l'infiltrer de l'intérieur, ce monde qui a l'air très puissant, mais aussi très nuisible, très nocif de l'extérieur, qui provoque des crises, où il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de procès à la hauteur, etc. Comment l'intégrer avec justement une dimension mathématique, technique, en tant qu'ingénieur. Et donc c'est là que voilà, j'entame donc pas mal d'années d'études à la fois. Donc j'intègre une grande école d'ingénieurs. Et c'est dans cette école que, voilà, comme tu le disais tout à l'heure, tu parlais des algorithmes en introduction. C'est là que je vois qu'il y a une mutation, en fait. Je comprends qu'il y a une mutation de la finance qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on pouvait voir dans les films et ce que je m'imaginais moi aussi de trader dans une pièce qui crie pour faire des prix, les uns à côté des autres, serrés, en train de se bousculer. En fait, je découvre que la finance aujourd'hui, maintenant, est quasi intégralement électronique et passe justement par ce qu'on appelle les algorithmes, donc en fait du code informatique. Et donc, c'est là où ma formation d'ingénieur est parfaitement cohérente et que voilà, il y a les premiers cours qui émergent de ce qu'on appelle la science des données ou donc le big data, l'intelligence artificielle. Voilà, c'est dans les médias relaient cette science-là, ces nouvelles. En tout cas, qui a trouvé, c'était des statistiques en fait, mais voilà, on a appelé ça data science des données, intelligence artificielle. En fait, c'est des statistiques assez poussées. Et donc c'est là, voilà, que je me dis que pourquoi pas coupler en fait mon intérêt à la finance à ce que je sais faire, c'est-à-dire des maths. Et donc voilà, c'est là que après l'école d'ingénieur où je me spécialise en sciences des données, je fais un master à Londres en finance, mais en finance donc quantitative. Et un troisième master à Paris, où sont justement formés parmi les meilleurs ce qu'on appelle analystes quantitatifs. Donc en fait, c'est les ingénieurs, les scientifiques qui travaillent dans les banques ou dans les institutions financières. Donc c'est vraiment la clé de voûte technique et scientifique, statistique de toutes les institutions financières sont appelés donc des analystes quantitatifs ou des quants dans le jargon. Et donc voilà, je suis le parcours assez classique mais qui est très exigeant pour devenir moi-même un quant. Ouais. Donc voilà, quasiment 10 ans avant que j'ai mon premier poste fixe en 2018.
Ouais, mais
à Londres.
Ouais, je voulais te dire. On en parlera après. Ouais, je voulais te dire ça parce qu'avant d'arriver à Londres, on va y revenir. Tu as travaillé en France et tu étais à du doigt éventuellement d'abandonner et de dire mais voilà, donc tu as travaillé d'abord en France, tu as développé ton savoir, ton connaissance pour après partir à Londres. Donc mais tu étais quand même à du doigt de laisser tomber en fait. Selon ce que tu dis dans ton bouquin en fait, Jérémy.
Ouais, tout à fait. Ouais. Bah ouais, c'est vrai que voilà, déjà je me dis que voilà, c'est Je me pose vraiment, voilà, au tout début, c'était un peu l'idée de vouloir rentrer là-dedans pour humaniser le secteur, le transformer de l'intérieur. Mais voilà, pendant mes études, c'est vrai qu'il y a plusieurs moments, en fait, de relâchement où je me dis que, dans tous les cas, la machine est beaucoup trop grosse, beaucoup trop puissante et que c'était prétentieux de croire que j'arriverais à changer quoi que ce soit. Donc, ouais, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'hésitation à vraiment m'y mettre à fond. Mais voilà, après, en plus, voilà, aussi, c'était assez coûteux de faire ce genre d'études, parce que je suis parti faire donc un master en Angleterre pour justement solidifier mon dossier. Et donc, c'est vraiment beaucoup de phases d'hésitation, mais voilà, à partir, on va dire, de 2015-2016, à partir donc autour du Brexit, quand j'étais donc à Londres pour mon master, c'est vraiment là où je suis sûr de vouloir. Au moins comprendre ce dont je parlais, la critique que je voulais faire, et c'était la meilleure manière. Je me fais convaincre de plus en plus par mes proches que c'est la meilleure manière de pouvoir critiquer ce système, c'est de l'intégrer pour savoir de quoi je parle en fait.
Voilà, tu travailles en France et à un moment donné, boum, il arrive quand tu ne le croyais presque pas, une offre pour partir à Londres, et là c'est un autre univers qui s'ouvre devant toi en fait, hein.
Exactement. Donc voilà, c'est vrai que en France, c'est vraiment rien à voir. Enfin voilà, la place parisienne est minuscule par rapport à la place de Londres. C'est vraiment avec New York, Londres, c'est vraiment l'épicentre de la finance mondiale. Et donc après voilà, quelques stages que j'ai fait à Paris, dont un au Crédit Mutuel dans le département des risques, un autre à la Société Générale dans justement où j'ai commencé à faire du trading algorithmique. L'objectif de mon métier, je commençais un petit peu à le toucher du doigt, et c'est vraiment à Londres, avec vraiment beaucoup de chance, au bout d'un moment j'ai quasi abandonné le fait de vouloir aller à Londres, tellement c'était compliqué, tellement c'était vraiment des entretiens à rallonge, des fois des dizaines d'entretiens, des dizaines d'heures d'entretiens. C'est une folie que je sais pas si d'autres secteurs industriels ont la même exigence en termes de nombre d'entretiens, de nombre d'heures d'entretiens techniques, où on pose des questions de maths, d'informatique, de finance, de statistiques, de code. Enfin, vraiment, c'était c'est submergent, comme effort.
Ouais, c'est
dingue. Donc vraiment, voilà, je me suis dit bon, Londres, c'est trop compliqué. J'avais commencé donc à postuler à Paris au bout d'un moment pour me dire bon, faut quand même que je travaille. Même malgré mes trois masters, Londres restait quasiment inatteignable. Et c'est vraiment voilà, par un coup du destin, un coup de chance au dernier moment où j'ai eu une réponse d'HSBC à laquelle j'avais postulé un peu sans y croire. J'avais déjà accepté mon offre à Paris. Mais voilà, HSBC me répond un peu tardivement et me dit bah, écoutez, on peut faire encore quelques entretiens. Et quelques entretiens plus tard, ça y est, c'est le Graal. Je suis accepté à HSBC pour un poste permanent. Donc à la rentrée de 2018, en septembre 2018.
HSBC, que c'est la Hong Kong et Shanghai Banking Corporation, donc une banque qui à la base a été créée pour les colons anglais, pour justement faire le commerce de l'opium avec la Chine en fait. Donc et voilà, pour toi c'était pas non plus, tu n'arrives pas à n'importe quelle banque en fait, une banque quand même assez particulière, hein. Donc voilà, toutes les banques sont particulières, mais voilà quoi, c'est quand même art, hein.
C'est ça, oui, c'est vrai que son histoire est quand même particulièrement sulfureuse, pour être gentil, HSBC.
Voilà.
C'est vrai que je connaissais pas grand-chose quand je suis rentré. J'avais juste entendu parler de HSBC pour la première fois en 2015, justement quand il y a eu l'affaire donc des Swiss Leaks.
Ouais.
Donc c'était un lanceur d'alerte franco-italien qui travaillait en Suisse et qui a révélé en fait des schémas d'évasion fiscale, de fraude vraiment massive et industrielle de la part d'HSBC. Donc il y a eu un petit émoi très rapide, les gens étaient un peu émus, les politiciens, l'opinion publique, pendant quelques semaines, voilà. Et puis après, bon, tout est retombé sous le tapis, la poussière est retombée assez vite. Et c'est vrai qu'en arrivant, je découvre que HSBC, enfin je savais déjà qu'HSBC donc, était lié à des schémas d'évasion fiscale, à aussi du blanchiment d'argent dans des cartels de drogue, des blanchiments d'argent du terrorisme. Mmh. Sans à chaque fois procurer la moindre condamnation, sanction, procès digne de ce nom. Et évidemment, sans explication, ils ne se justifient de rien, ils n'ont pas à justifier.
Voilà.
Et donc voilà, plusieurs observateurs économistes disent qu'en 2012, normalement, la banque aurait dû fermer suite à donc une autre révélation de blanchiment d'argent de la drogue dans les cartels mexicains. Évidemment, il ne s'est rien passé et voilà, il y a juste une amende dérisoire que HSBC a dû payer. Elle s'est beaucoup excusée et au final, personne, aucun de ses dirigeants qui était au courant n'a été poursuivi. Et après, c'est en arrivant en fait en septembre 2018 que voilà, je découvre aussi, j'apprends un peu les origines de la banque et voilà, comme tu dis. Fondée au 19e siècle par des entrepreneurs écossais qui étaient impliqués, ils n'étaient pas trafiquants eux-mêmes, ils étaient impliqués dans le trafic d'opium.
Ouais.
Et donc, c'est vraiment suite à la guerre de l'opium de l'Angleterre contre la Chine, que l'Angleterre a gagné, qu'HSBC s'est implanté à Hong Kong, qui a été justement offerte de force aux Britanniques. La Chine a dû céder ce territoire aux Britanniques, qui était vraiment un port parfait pour introduire le marché chinois.
Ouais.
Et donc, c'est à partir de ce moment-là donc, que HSBC donc, a prospéré, notamment pour permettre à la Chine de payer ses dettes de guerre à l'Angleterre.
Ouais.
Et depuis, elle est vraiment restée à Hong Kong pendant assez longtemps. Et quand Hong Kong a été rétrocédé à la Chine dans les années 90,
ouais.
HSBC a mis son siège à Londres tout en réalisant toujours aujourd'hui la majorité de ses profits en Asie. Ils ont vraiment les pieds dans... Enfin, c'est vraiment une banque du coup très particulière aussi pour ça. C'est vraiment que c'est la plus chinoise des banques occidentales et la plus occidentale des banques chinoises.
Ouais.
C'est vraiment un pied dans les deux mondes.
Ouais, c'est une banque particulière, mais c'est aussi particulier les modes de fonctionnement de la City à Londres. Donc avec tous les évasions fiscales, donc il faut savoir que toutes les colonies anglaises, donc les îles Caïman et tout ça, tout font partie de ces évasions fiscales. Est-ce que tu sais nous expliquer comment ça fonctionne un peu, grosso modo, pour que les auditeurs puissent s'orienter? Et comment les modes operandi de la City, en fait, avec tous ces... Voilà, les îles Caïman, tout... Voilà, qu'ils sachent un peu, c'est parce qu'on va parler de fraude fiscale, d'évasion fiscale. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, Jérémy?
Ouais, très succinctement, historiquement, alors pour faire très vite, quand les Romains sont arrivés donc, en Grande-Bretagne, ils ont prospéré leur centre un petit peu, leur QG. C'était ce qu'on appelle aujourd'hui la City, le Square Mile. Donc, c'était un endroit qui était propice pour plein de raisons, parce qu'il y avait la Tamise, le fleuve de la Tamise qui passait, il était assez profond pour laisser passer les bateaux et en même temps assez court entre les deux rives de Londres pour pouvoir faire un pont. Donc bon, des raisons historiques ont fait que la City, c'était un bon endroit pour être le QG des Romains autour de l'an 0. Pendant 1000 ans, du coup, la City a prospéré avec ce petit territoire encadré par un mur. Et encore aujourd'hui, on voit à Londres les vestiges de ce mur qui enclave du coup la cité de Londres dans un mile square, quoi, quelques kilomètres carrés. Et à partir de l'an 1000, le premier roi d'Angleterre a fait un accord en fait avec la City. Si la City le reconnaissait comme roi de l'Angleterre réunifiée, du Royaume-Uni, en échange, la City pourrait garder tous ses privilèges. Donc, c'est vraiment une des plus vieilles institutions juridiques, politiques au monde, avec leurs propres textes de loi, etc. Et aujourd'hui encore, donc 1000 ans après, la City, c'est vraiment un cas très particulier, a ses propres lois, à sa propre police, à son propre maire, fait voter récolte son propre impôt. Et du coup, historiquement, avait déjà une sorte d'allergie à l'impôt et permettait à ses citoyens, donc les freemen, les hommes libres, de pouvoir commercer, rentrer, sortir de la City sans payer de taxes.
Mmh.
Et donc ça c'est vraiment ancré dans la culture donc la cité de Londres. Après, les années ont fait que donc les deux cités, les deux capitales de l'Angleterre, la City de Londres et Buckingham Palace, ont fusionné pour devenir juste Londres. Et aujourd'hui, donc la City de Londres est un peu perdue. On voit pas trop où c'est. On peut rentrer et sortir de la City de Londres sans trop de problèmes, sans trop voir qu'on rentre et qu'on sort.
Ouais.
Mais ils ont gardé cet héritage culturel. Et depuis les années 70, après la guerre, tous les confettis de l'Empire britannique, voilà. Donc il y a eu la décolonisation britannique, etc. Et tous les confettis de l'Empire, une fois que l'Angleterre était réduite un peu à son petit précaré, n'avait plus l'Inde, etc., se s'est dit que quelle bonne idée pour rentrer dans la globalisation et dans la mondialisation, dans le marché capitaliste mondial, que de transformer donc toutes les petites îles, donc Jersey, Guernesey, les îles Caïmans, etc., les îles Vierges britanniques, de transformer toutes ces petites îles en paradis fiscaux.
Ouais.
Et ce qui fait qu'aujourd'hui encore, même si on s'intéresse peut-être beaucoup dans les médias, on va parler peut-être de la Suisse, du Luxembourg, des Pays-Bas,
ouais,
en Europe, alors qu'un des plus gros, si ce n'est le plus gros paradis fiscal au monde, c'est Londres, c'est l'Angleterre.
Ouais. Ah, c'est
donc via la City de Londres, ou par rapport à la Suisse, et à tous ces autres pays, l'avantage, c'est que Londres jouit un peu d'une position comme New York de respectabilité, à savoir où est-ce que cette réputation est venue, mais en tout cas, voilà, ça joue une certaine forme de respectabilité. Donc, c'est une bonne chose quand on veut cacher son argent ou évader son argent, de le blanchir à travers Londres et de dire, je fais un investissement, il y a tout ce qui est plus légal par Londres. Et en fait, Londres, après, derrière, va être une plateforme qui va donc envoyer cet argent, le cacher dans tous ces petits confettis, dans toutes ces petites îles où l'opacité est totale, on comprend rien, les lois sont très spéciales, personne ne peut se battre juridiquement contre la cité de Londres et contre ces paradis fiscaux. Et donc, en fait, voilà, c'est la parfaite botte de foin pour cacher une épine. Voilà. C'est la cité de Londres.
Voilà.
Et donc encore aujourd'hui, voilà, l'économie mondiale repose énormément sur ces schémas d'évasion fiscaux, malgré le déni et l'ignorance peut-être de beaucoup d'économistes.
Ouais. Marco, ¿qué voulez decir? Marco.
Sí. Hola, Jeremy. Buenas noches. Oye, yo tengo una pregunta muy sencilla. Existen periodistas como Roberto Saviano que han escrito que en la City de Londres se lava todo el dinero producto de la venta de cocaína en el mundo, no solamente de los carteles mexicanos, sino de los carteles europeos. Además, también la gran cantidad de compañías offshore, de las cuales son las dueñas de muchos bienes inmobiliarios en la zona de Westminster. Esto fue un reporte de Transparencia Internacional. ¿Cómo te puedes explicar de que si todo mundo lo sabe, por qué no se hace nada?
No, Marco dice, yo voy a traducir porque él habla en español, donc il dice que en fait il y a un journaliste mexicain qui dit que tout l'argent provenant du narcotrafic et des cartels, tout est blanchi à Londres, à la City de Londres. Como si tout le monde, on va revenir après, mais como Marco dice...
Roberto Saviano es italiano.
Voilà, italiano, perdona. No, il dice que como c'est possible que si tout le monde le sait, personne ne fait rien pour l'empêcher, en fait. Voilà.
Bah, justement, une des raisons que j'explique très succinctement dans le livre, c'est le fait que le statut en fait d'HSBC est tel... parce que pour justement blanchir cet argent passé par des paradis fiscaux, entre autres ceux de la Cité de Londres, il faut bien qu'il y ait des banques qui fassent l'intermédiaire. Et HSBC est tellement grosse qu'en fait, même donc, le Premier ministre de l'époque et le Premier ministre de l'époque, je crois que c'était, sans dire de bêtises, Gordon Brown, faudra vérifier, mais est allé carrément faire un témoignage à la Fed, à la Banque fédérale américaine, pour dire, en gros, la HSBC a besoin de... Parce que les États-Unis menaçaient justement de fermer la licence bancaire, d'interdire la licence bancaire à HSBC aux États-Unis et de ne plus pouvoir commercer en dollars, hein, suite justement à cette révélation et à cette crise, ce scandale. Et en fait, le Premier ministre, tellement l'Angleterre est dépendante de ses pouvoirs financiers pour exister sur la scène internationale, est allé dire aux Américains Si vous prenez une sanction trop forte contre HSBC, ça risque, et que vous lui interdisez le marché américain, ça risque de tellement la déstabiliser que ça pourrait créer une crise systémique mondiale. Mmh. Et donc, en fait, ça, cet argument, c'est l'argument massu qui reviendra systématiquement dès qu'il faut créer une sanction à la hauteur contre les banques. C'est si vous la sanctionnez, elle, sachant qu'elle est partie des too big to fail. Il y a 30 banques dans le monde qui sont comme ça.
Et ça signifie que...
Je pense que c'est ça la raison principale. Ouais. Moi, je dirais que c'est ça la raison principale.
Oye, y eso significa que la cocaína es actualmente el la base de la economía mundial.
Non, il dit l'économie. Non.
Ouais, voilà, tu peux répondre.
Je dis que HSBC, pardon, est-ce que j'ai pas été clair? Je dis que HSBC, le fait qu'elle ait blanchi l'argent de la cocaïne, c'est un des éléments qu'elle peut pas contrôler, qui est un effet secondaire de sa politique d'investissement, de sa politique financière. En fait, c'est le fait de sanctionner HSBC qui est coupable d'avoir blanchi l'argent de la cocaïne, c'est sanctionner HSBC en particulier qui créerait un désordre mondial. Ouais. Je sais pas si c'est clair.
Ouais, pour moi c'est clair. Pour moi c'est clair.
Mais voilà, c'est aussi comme le fait qu'elle ait pu financer, qu'elle ait pu blanchir l'argent du terrorisme, Oussama Ben Laden appelait la Gold Chain, la chaîne en or, le nom de ses financiers. Banquiers, dont certains qui passaient par Londres et par HSBC. Voilà, l'économie mondiale ne repose pas non plus sur le terrorisme, quoi. Mais c'est juste que voilà, dans ses affaires, HSBC a besoin de prendre tout l'argent qu'elle peut et sait qu'elle est quasiment intouchable. Et même si cet argent est très très sale, c'est pas un problème parce qu'elle anticipe que la régulation, l'État et les gouvernements ne vont pas l'attaquer à la hauteur des crimes qu'elle commet. Donc, ouais. Ils se sentent complètement impunis. Donc, quel que soit le crime, blanchiment de fraude fiscale, blanchiment de narcotrafic, blanchiment de terrorisme, peu importe, tant qu'il y a de l'argent à se faire, elle va s'en faire. Même s'il y a une crise de réputation qui est momentanée, les gens oublient très vite. Et voilà, c'est passé aux oubliettes. Et voilà, et encore il n'y a pas un mois, on entendait parler les FinCEN. Encore un autre scandale de montage, d'évasion, etc. 2000 milliards blanchis par 5-6 banques en 20 ans. HSBC en fait partie, JP Morgan aussi. Et ben voilà, c'est passé complètement inaperçu. Tout le monde pense à autre chose dans ce flot d'informations continues qu'on a. Ouais. Voilà, ça fait les gros titres 2-3 jours et la pression retombe.
Bon, les décors est planté, donc tu arrives à Londres, à la City, donc on a vu les caractéristiques de la City, la gouvernance de la City, HSBC, bon, tu nous expliques un peu, et donc tu arrives là, à un nouveau poste, un poste très intéressant, donc là, on parle de trading de haute fréquence, et c'était quoi ton boulot? Ton boulot, c'était d'analyser les algorithmes, bon, Jérémy, parce que c'est intéressant que les gens... Ouais.
Alors c'est ça, donc comme je disais, donc voilà, la finance aujourd'hui, c'est plus du tout des gens autour d'une corbeille qui crient, c'est de plus en plus grâce à la révolution numérique, aux ordinateurs de partout, etc. Maintenant ça passe donc par des ordres qu'en fait, donc c'est des mecs comme moi qui ont une formation d'ingénieur ou d'informaticien qui vont récupérer des données sur les marchés pour voir justement comment certains produits, donc des actions, des dettes, même des devises, voir comment ces produits financiers, ces actifs ont évolué dans le temps et comment d'autres acteurs de marché, donc d'autres banques, d'autres institutions financières, comment est-ce qu'eux ont pris des achats ou des ventes dans le temps. Donc on regarde ça en fait, on fait donc ce qu'on appelle donc l'analyse de série temporelle et on regarde donc dans le passé. Comment est-ce que, voilà, s'il y a une annonce autour du pétrole, comment est-ce que l'action totale va changer? On regarde historiquement comment est-ce que ça se passe. Et derrière, on va essayer donc de trouver des lois statistiques plus ou moins stables. Et donc, le trading algorithmique, en fait, ça peut pas forcément être à l'échelle haute fréquence, mais voilà, le trading algorithmique, en gros, c'est cette idée de regarder des tendances passées et d'essayer de les répliquer dans le futur. Donc ça c'est le travail de scientifique des données qui peut faire ça à n'importe quel dans n'importe quel secteur industriel. Et la spécificité du trading haute fréquence, c'est que vu que la vitesse devient un enjeu stratégique, étant donné que si vous voulez acheter quelque chose et qu'un autre acteur de marché, une autre banque vient vous l'acheter plus vite que vous, elle peut forcément vous le revendre plus cher. Donc vraiment la vitesse devient un enjeu stratégique. Et c'est pourquoi il y a eu le temps de détention moyenne d'une action est passé de peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, il y a des années, à aujourd'hui de l'ordre de la minute. Ouais. Et nous, les algorithmes sur lesquels je travaillais à HSBC, c'était des algorithmes de trading qui étaient de l'ordre de la milliseconde. Donc vraiment, dans des échelles de temps, c'est un dixième du temps qu'il vous faut pour cligner des yeux, la milliseconde. Donc c'est vraiment des échelles de temps que le cerveau humain ne peut même pas appréhender, en fait.
Ouais, non, ça c'est clair. Et en fait, là, tu parles des temps, et là, tu joues donc la distance, comme tu disais, donc on va dire les cerveaux qui communiquaient ou qui interfaçaient avec les marchés étaient tout près des serveurs. Tout compte au niveau des ordinateurs, tu dois être près des serveurs pour gagner du temps. C'est incroyable, comme tu dis, tu es mathématiquement étudié pour que les transferts soient les plus rapidement possibles. C'est hallucinant, hein.
Ouais, exactement. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment.
Non, existent algorithmes différenciés.
Pardon?
Continue.
C'est pour dire à quel point ça s'est complexifié. C'est que voilà, déjà il y avait donc une dimension mathématique assez forte où vraiment voilà toutes les personnes autour de moi qui travaillaient avec moi. Donc je précise, on n'était pas des traders nous-mêmes, on n'était pas des concepteurs. C'est pas nous qui créions les algorithmes, mais on devait les superviser. Dans mon équipe, on était juste des superviseurs de modèles. Mais voilà, que ce soit pour être superviseur ou pour être trader algorithmique, c'est 5, 6, 7 ans d'études. Il y avait beaucoup de docteurs en maths, en physique, en informatique autour de moi. Et donc voilà, déjà, il y a une complexité scientifique de haut niveau, mais sur un truc très précis, c'est comment marche l'algorithme, comment est-ce que le code fonctionne, quelles sont les maths qu'il y a derrière. Et en plus, tu as une autre couche qui est donc plus de la télécommunication. Donc là, je maîtrise un peu moins, mais voilà, c'est des experts en télécommunication qui essaye de voir donc entre la banque au marché, donc à la bourse. Donc par exemple la bourse de Londres, enfin il y a la bourse de Londres, mais il y a en fait la bourse européenne la plus connue, c'est Euronext, c'est la plus grosse, qui est à Basildon, donc dans la banlieue de Londres. Et donc la bourse de Paris, la bourse de Francfort, la bourse de l'Espagne, du Portugal, des Pays-Bas, toutes ces bourses-là sont à Basildon, donc dans un énorme data center, c'est un hangar énorme, ultra protégé, donc dans la banlieue de Londres. Et donc, dès qu'on envoie un ordre depuis une banque, quelle qu'elle soit en Europe, ça va passer donc soit par des fibres optiques, soit par des ondes dans l'air, en fait. Ça va passer donc par des. Il y a des antennes comme ça de trading haute fréquence, où l'ordre passe dans l'air. Donc, ce sont des ondes électromagnétiques qui permet donc en fait de faire le trajet de manière la plus courte possible, parce que donc une fibre optique forcément ça peut pas être en ligne droite, tandis que si on envoie une onde électromagnétique dans l'air, on est quasiment en ligne droite. Et donc une fois que ça arrive à Euronext, toutes les banques, tous les acteurs de marché vont être, comme tu dis, à égale distance de la bourse en question, pour pas qu'il y ait de favoritisme. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on appelle une colocation. Toutes les banques ou les fonds d'investissement qui veulent passer par une bourse sont à égale distance de cette bourse. Donc, en fait, c'est plein de serveurs informatiques qui sont à égale distance d'un autre serveur informatique. Et c'est comme ça que les ordres se passent et que la finance vit, en fait. C'est vraiment l'infrastructure vitale de la finance, c'est celle-ci. Mais vraiment, c'est vraiment encore un autre métier qui n'était vraiment pas le mien, de voir entre HSBC et Euronext, ou entre HSBC et n'importe quelle autre bourse dans le monde, qu'est-ce qui se passe et comment on optimise cette vitesse. Ça, c'est en notre métier. Voilà, moi, mon métier, c'était juste devant mon ordinateur de voir comment on récupère des informations, donc des données de l'extérieur. Quelles sont nos données à nous passées d'HSBC en fonction de notre profil d'ordre, d'achat, de vente, le volume, quel est le profil de nos clients, etc. Donc, toutes ces informations confidentielles que seulement HSBC détient, ou d'autres informations publiques, on met ça dans un modèle statistique, on donne à manger toutes ces données dans un modèle, et ensuite on espère qu'à la milliseconde près, dès qu'il se passe quelque chose, le modèle aura appris dans le passé de manière à prendre une bonne décision dans le présent. et dans le futur.
C'est ça.
Et donc voilà, bah, un acteur fait ça, il vend énormément à ce moment-là, à 7 heures de la journée. Historiquement, s'il fait ça, un autre client va racheter le même montant dans l'après-midi, par exemple. Voilà. Mmh. On essaye d'anticiper ce genre de tendance d'un point de vue statistique et mathématique. C'est
voilà.
Ça mon métier.
Voilà. Et entre parenthèses, donc Jérémy parlait d'antennes haute fréquence. Donc il faut savoir que les transits les plus. La bande passante, on va dire, où il y a plus de données, de circulation de données, c'est entre Francfort et Londres. Tu me corriges si je me trompais, Jérémy.
Ouais, je crois.
Ouais, et donc, et là, il faut savoir que, pour information, en Belgique, il y a des antennes haute fréquence, donc qui permet de passer les données d'un côté à l'autre. Donc, c'est pour information. Bon, Jérémy, voilà, tu supervisais les algorithmes, mais ce qu'il y avait, on va dire les pouvoirs, c'était les traders algorithmiques, non? Et à un moment donné, tu voulais arriver jusque-là pour pouvoir avoir les... non, c'était un peu ton but d'arriver à être trader algorithmique.
Bah en fait, j'aurais pu l'être, ouais. Ça m'aurait intéressé à l'époque. Enfin, je savais que c'était la voie la plus sûre pour être trader algorithmique et donc vraiment gagner beaucoup d'argent très vite. C'était, voilà, vu que commencer par une position de trader tout de suite, c'est impossible. Il faut se former quelques années, des fois en tant qu'assistant trader. À l'époque, on était assistant trader. Aujourd'hui, en tout cas HSBC, la voie la plus sûre pour faire du trading algorithmique, c'est d'abord de faire de la supervision de modèles algorithmiques, donc faire ce que j'ai fait. Ouais. Et un de mes collègues qui avait un an de plus que moi, à la fois en âge mais aussi en expérience chez HSBC, il n'y a pas longtemps là, donc avec un an après mon départ, on a passé un an ensemble, donc après 3 ans dans la supervision d'algorithmes, c'est à peu près le temps que les gens restaient, on pouvait devenir trader algorithmique. Cet ancien collègue est devenu trader algorithmique lui-même. Donc c'était ouais, un peu la voie royale,
ouais.
pour arriver en tant qu'acteur de marché et donc moi-même créer mes propres algorithmes. Et évidemment, beaucoup plus de stress, mais beaucoup plus d'argent à la clé.
Ouais. Et donc il faut savoir, donc, tu as parlé d'impunité des banques, bah, il faut savoir qu'il y a des organismes qui surveillent les banques. Mais en fait, ils sont incapables de suivre toutes les opérations des banques parce qu'ils n'ont pas les outils pour les faire. Et ça, c'est d'un côté. Ça, c'est d'un côté. Et d'un autre côté, il faut aussi tenir compte des liaisons entre la politique et les banques, les montées des finances. On parle évidemment des noms comme Barroso et des politiciens qui ont basculé d'un côté à l'autre. Donc, il y a une relation très étroite. Et donc, en fait, c'est carrément, comme tu disais, c'est l'impunité totale, en fait, presque. Hein,
c'est ça, en fait, ils sont dans le même monde, en fait. C'est vraiment les mêmes personnes. Il ne faut vraiment pas croire qu'il y a la moindre conflictualité entre les chefs d'État, les gouvernements, même les organismes supra-étatiques comme l'Union européenne ou quoi que ce soit, et la finance. Ce sont vraiment, voilà, c'est là aussi la finance, pas pour rien que c'est l'industrie qui les domine toutes. C'est aussi l'industrie qui a une indulgence particulière de la part des pouvoirs publics, ouais. Qui en fait eux-mêmes s'empêchent d'avoir les moyens de contrôler la finance. Et ouais. C'est vraiment conscient. Faut pas croire que c'est un accident. Donc je cite un documentaire dans mon livre qui justement fait écho à ça, où le journaliste va voir, donc il y a deux documentaires différents qui en parlent, où le journaliste va voir donc l'autorité des marchés financiers, qui est le gendarme de la bourse en France. Mais vraiment, cette situation pourrait être répliquée, on pourrait dire la même chose aux États-Unis, en Angleterre, de partout. Et en fait, on voit que ces gens-là, donc les gendarmes de la bourse, sont complètement dépassés de leur propre aveu. Ils disent que vraiment tout se complexifie à un rythme qu'ils n'avaient pas anticipé. Et que même leurs outils, donc voilà, faut savoir qu'on analyse du coup des millions d'ordres pour un seul algorithme. Enfin, c'est voilà, pour
une seule banque,
il y a au moins 1 million d'ordres qui peut être passé par jour. Mm. Et donc vraiment, voilà, ça requiert une infrastructure numérique avec des bases de données, des serveurs qui est démentiel.
Ouais.
Il faut aussi payer donc des ingénieurs, des docteurs. Des informaticiens, des armées comme ça, que les banques peuvent se permettre de payer un très bon salaire et que les États ne peuvent pas. Et donc voilà, il y a l'infrastructure, il y a les moyens humains et il y a les moyens légaux aussi, où une fois qu'on attrape un trader après donc des mois de rapport, donc ne serait-ce que sur une partie de la journée de trading et sur un ou deux instruments, donc l'AMF, j'en parle un peu mieux dans le livre, mais donne ce témoignage-là. Voilà, c'est ne serait-ce que pour un rapport qui parle de deux ou trois actions sur une partie d'une journée d'une banque, ça prend des mois. Ça prend des mois et ces personnes-là sont une poignée. Ils sont quelques-uns, 5, 6 à travailler sur le trading haute fréquence. Par rapport, donc, on parle à des banques qui emploient des centaines de personnes sur le sujet. Et vraiment, voilà, et elles avouent elles-mêmes qu'elles sont complètement larguées, que certains utilisent Excel, donc un outil informatique qui sature au bout d'un million de lignes, alors que le million, on le fait extrêmement vite dans le trading haute fréquence. Donc, vraiment, voilà, tout est fait pour que les financiers s'auto-régulent. C'est vraiment la blague que certaines personnes croient dur comme fer, que les banquiers vont s'auto-réguler parce que en fait, voilà, l'État et la régulation, etc., n'a pas les moyens de suivre. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment voilà, une impunité de fait qui a été construite et qui n'est vraiment pas un hasard pour voilà, laisser la finance un peu la moins régulée possible. L'harmonisation est toujours par le bas, en fait. On peut pas. Si on commence à réguler, aujourd'hui, en plus, ça prend un peu d'ampleur. Là. Enfin, on en parle un peu dans l'Union européenne. Il y a le gouverneur général, le rapporteur général du budget qui a entamé une grève de la faim pour imposer une taxe sur les transactions financières. Ah, voilà, ça me faisait un peu rire et ça me fait de la peine en même temps parce que ça fait 30-40 ans qu'on en parle de cette taxe.
C'est clair.
Tous les pays européens qui dépendent de la finance, donc les pays les plus riches, la France et l'Allemagne en tête, font tout, leur lobby bancaire font tout pour empêcher la moindre taxe sur les transactions financières. La France est un des plus grands lobbies en Europe pour interdire, pour ne pas imposer cette taxe. Et aujourd'hui, ce pauvre monsieur fait une grève de la faim depuis 7-8 jours pour attirer l'attention sur ce truc. Alors que, voilà,
ça, c'est
même si on arrivait à créer une taxe en France, évidemment, les marchés passeraient par l'Asie ou par les États-Unis. On créerait un effet d'aubaine où tous les algorithmes réfléchiraient, entre guillemets, à regarder quel est le passage d'ordre le plus efficient au niveau des coûts. Et si y a 0,1% qui est taxé, sachant qu'on fait des fois des milliers d'opérations par seconde, évidemment, on ne va pas passer par l'Europe ou par la France. Donc, c'est complètement absurde, je trouve, de vouloir essayer de réguler la finance, sachant qu'elle est par essence dérégulée, que pour prospérer, elle doit être dérégulée, et que si tout le monde ne joue pas le jeu, ça va bénéficier à ceux qui ne jouent pas le jeu. Donc,
c'est clair. Donc voilà, vous voyez donc la City avec ses normes très particulières, les paradis fiscaux, donc la banque où Jérémy a travaillé, les algorithmes haute fréquence, ou pas forcément haute fréquence, mais des trucs très compliqués. Autant compliqué que même les gens qui créent les algorithmes, à un moment donné, ils ne se trouvent pas. Jérémy ?
Oui.
Donc, vous voyez un peu l'ensemble, donc, et la complicité des politiciens, donc, en fait, et la autorégulation des banques. Donc, c'est un peu. Donc, c'est quand même incroyable ce qui se passe au niveau des finances. Et donc, et là, Jérémy, à un moment donné, boum, en 2018, là, tu décides déjà tu t'impliques dans des mouvements écologistes. Et tu dis qu'il faut dénoncer tout ça, et tu écris même une lettre à la direction pour essayer de conscientiser par rapport au changement climatique. Et voilà, comment tu arrives à ce point-là, en fait.
Alors, donc voilà, comme tu le disais, donc vraiment, voilà, j'en ai pas parlé, mais voilà, très brièvement aussi, même en tant que superviseur de modèles de trading algorithmique, qui, comme je l'ai dit, sont tellement complexes que même ceux qui les créent, donc déjà on est une poignée dans la banque, on est deux ou trois maximum à comprendre un algorithme en particulier, comment il marche. Pour chaque algorithme, il y a deux, trois personnes qui le maîtrisent, et même ceux qui le créent, donc l'ancien trader avec lequel j'interagissais, très rapidement, pour faire très court, mais c'est un truc déjà qui m'avait aussi choqué, ces gens-là ne prenaient absolument pas en compte les remarques que je faisais et les problèmes graves, les risques graves que pouvait prendre leur algorithme. J'arrivais à démontrer statistiquement que son algorithme ne servait à rien, qu'il était dangereux, qu'il était etc. Et la personne en face m'a dit « Non, mais il faut quand même le mettre sur les marchés. Ne me mets pas une mauvaise note, parce qu'on mettait des notes aux algorithmes, ne me mets pas une mauvaise note qui m'empêcherait de le mettre en live. pour plein de raisons obscures que je détaillerai pas. Voilà. Mais donc voilà, même ce rôle d'autorégulation que je devais incarner en fait interne était complètement balayé par des arguments d'autorité en fait. Donc même si statistiquement, mathématiquement, j'avais raison, le trader en tant que haut de la chaîne alimentaire de la banque, en tout cas dans la partie finance de marché, il avait tous les pouvoirs et c'est lui qui avait le dernier mot. Ouais. Donc, même s'il avait tort d'un point de vue technique, scientifique, ouais. Et que le mec était docteur en maths, etc. Ouais. Donc vraiment, c'était assez frustrant, vraiment des aberrations mathématiques assez folles, on s'en foutait complètement, passe à autre chose, lâche-nous les baskets.
Ouais.
Et en fait, bon, voilà, déjà, quelques désillusions qui m'ont fait un peu vraiment pas mal vriller, moi qui pensais que, les mathématiques financières pour lesquelles j'avais donné autant d'années d'études, au final, pouvaient être balayées d'un revers de main pour je ne sais quelle raison, politique, économique, et quoi que ce soit. Et en fait, comme tu l'as dit, donc voilà, je suis arrivé en septembre 2018 à HSBC, et en parallèle de mon travail, c'est vrai que l'état du monde ne m'a pas échappé, via plein de manifestations qui sont arrivées quasiment même moment, donc je les énumère rapidement dans le livre, mais voilà, c'est donc à la fois les gilets jaunes en France par rapport à la taxe sur le carburant, XR. On a ensuite taxé d'anti-écologique, il y a eu Extinction Rebellion, il y a eu les marches pour le climat de Greta, il y a eu le rapport du GIEC aussi en quasiment la même période, donc tous ces événements-là me perturbent beaucoup, et c'est en avril 2019, donc après 7 mois, 8 mois dans la banque où je commençais à travailler sur un deuxième algorithme, j'ai fait 6 mois sur le premier et j'entamais un deuxième. C'est là où je prends part avec ma compagne et une amie à elle à un blocage de Extinction Rebellion qui est survenu donc devant le Parlement britannique. Donc il y a eu plusieurs points dans Londres qui de passage en fait, plusieurs carrefours assez importants à Londres qui ont été bloqués par les militants. Ils se collaient au sol, ils s'agrippaient les uns aux autres au sol. C'était des milliers donc pour perturber la ville et même à HSBC, en fait, même à Canary Wharf, donc le quartier d'affaires d'HSBC, où je prenais le métro tous les jours, ils ont même réussi à bloquer le métro, à se mettre sur la rame, sur un des wagons, etc. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai entendu parler d'eux. Et c'est en participant donc à leur blocage en avril que j'ai entendu parler pour la première fois, en fait. J'avais entendu parler de loin du GIEC, mais je comprenais pas, je voulais pas m'y intéresser plus que ça. Dans ma formation, j'ai jamais entendu parler d'énergie, de climat, d'énergie fossile, de pétrole, etc. Donc bon, je me disais que c'était quelque chose d'assez négligeable, que c'était pas forcément un domaine très important. Et en fait, c'est pour la première fois que j'entends parler de l'urgence climatique et que suite à un débat entre un militant et une autre personne qui était venue nous voir, j'entends parler de ces 10 ans, 12 ans avant un emballement climatique irréversible, des thèmes qui étaient un peu anxiogènes, qui faisaient un peu peur, et je comprenais pas pourquoi on n'en parlait pas plus dans les médias pour apporter des solutions à la hauteur.
Ouais.
Et donc le 1er mai, quelques semaines donc après ces vagues de protestations des militants d'Extinction Rebellion, le 1er mai, le Parlement britannique annonce l'état d'urgence climatique. Et je me dis, ma banque HSBC, étant donné qu'on est la plus grosse banque d'Europe et donc a fortiori la plus grosse banque d'Angleterre, si le Parlement anglais du Royaume-Uni déclare l'état d'urgence, je devrais forcément entendre parler dans mon métier.
Ouais.
Et là, rien du tout. Absolument rien. Je n'ai aucun message, aucun...
Mais Jérémy, excuse-moi.
Chers employés.
Jérémy, excuse-moi. Je pense que c'est important aussi de dire, c'est qu'en fait, on va dire l'économie dépend de l'énergie, est strictement liée à l'énergie fossile. Hein? Et donc, ça, tu le documentes très bien dans les livres, c'est la vérité. Hein? Ça, c'est quelque chose de très important aussi à dire. Hein? Donc,
Exactement. Ça, en fait, je ne me rendais pas encore compte. Et t'anticipes en fait vers là où j'allais aller, mais voilà, du coup, j'y vais un peu plus vite.
Non, mais c'est par là.
C'est HSBC qui, malgré tout, ils font quand même quelque chose parce qu'il y a quand même une pression publique qui est assez inédite dans le pays et en Europe et dans le monde. Ils font quelque chose, ils balancent sur tous leurs écrans, sur mon ordinateur, dans l'ascenseur, dès qu'on arrive, il y a un écran géant, etc., qui nous parle de la finance verte et qui nous parle du sustainable finance, plutôt en anglais, la finance soutenable, ou verte, ou écologique, ou la croissance verte, ce qu'on veut, pour donc prétendre que HSBC, pas besoin de vous inquiéter, pas besoin de paniquer, HSBC a la solution, on l'a depuis longtemps, on a créé un centre de développement durable, et donc c'est là où je me dis, bah, je vais, pourquoi pas, ok, c'est bon, je vais m'y intéresser vraiment. Ouais. J'avais quelques activités bénévoles depuis que j'étais arrivé à Londres, etc., qui me permettaient d'avoir un peu de temps libre, enfin d'organiser mon temps libre de manière un peu studieuse. Et là, je laisse tout tomber mes engagements bénévoles et je me mets bénévolement corps et âme pendant près de 2 mois sur comment décrypter la politique écologique et climatique d'HSBC et croiser leurs constats et leurs solutions avec l'état du monde et l'état des lieux de la situation. Et c'est là où voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait un gouffre total, qu'il y avait vraiment un impensé, un point aveugle total dans la réflexion d'HSBC, et qui, je pense, est faite à dessein. Je ne pense pas que là aussi, ce soit complètement par hasard et que ces gens-là soient ignorants. Je ne pense pas que je suis plus intelligent qu'eux, etc. Ouais. C'est vraiment juste que ces gens-là, l'armée, enfin peut-être la centaine de personnes qui ont dû travailler sur la finance durable, je pense que quelques-uns avaient des doutes, mais ils se sont auto-censurés pour ne pas les mettre en avant. Et c'est là où, voilà, déjà, s'il y avait une chose à retenir peut-être de mon livre, même si j'espère donner intérêt à le parcourir plus en détail, mais c'est vraiment voilà, cette idée que la croissance économique qui est à la base en fait, du système financier capitaliste actuel, qui est vraiment quelque chose qui ne doit absolument pas être questionné, est vital pour les banques et est vital pour ce système. C'est voilà la logique même de la banque, c'est d'accorder des prêts en fait, sa fonction dans la société, c'est d'accorder des prêts à des industries pour leur permettre de croître. Voilà. Et derrière, les industries vont rembourser leurs dettes avec un taux d'intérêt positif. Voilà. Et donc il faut qu'elles fassent plus d'argent que ce qu'elles ont emprunté à la banque. Ouais. Donc tout le système bancaire et financier mondial repose sur la dette et la croissance. Or, la croissance économique est causée par la croissance énergétique. Voilà. Et la croissance énergétique, depuis la révolution industrielle, donc depuis 150-200 ans dans l'histoire humaine, cette croissance énergétique est principalement composée d'énergie fossile, voilà. À 85%. 85%. Ouais. Donc en fait, 85% de notre croissance économique provoque des gaz à effet de serre. Ouais. Et donc prétendre pouvoir régler la question du climat et dans l'intervalle de temps qui nous reste, qui est extrêmement bref, sans remettre en question la croissance, c'est tout bonnement impossible en fait. C'est être schizophrène, vraiment.
Ouais, ben après.
Et ces gens-là.
Ouais, mais après aussi, excuse-moi de t'interrompre, après tu disais aussi donc, la croissance des pays émergents, donc la Chine, ils sont en phase de croissance, donc les gens, comme tu disais, on ne va pas empêcher les pays émergents de croître. Eh, parce que aussi, nous, on a profité de ça. Donc, c'est vachement hallucinant, hein, cette histoire.
Hein. C'est, voilà, c'est ce qui fait aussi que c'est très complexe. C'est qu'en effet, voilà, l'Occident, l'Europe, les États-Unis,
on est bien servi.
Tellement profité de la croissance. Voilà, on s'est bien servi, on s'est rempli le ventre. Et encore, on ne s'est pas tant rempli le ventre que ça. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des gilets jaunes à droite et à gauche, qu'à Hong Kong, on voilà. C'est pour d'autres raisons à Hong Kong, mais voilà, ce n'est pas pour rien que les citoyens du monde se révoltent même dans les pays riches, c'est que cette croissance, elle a surtout bénéficié à une petite caste de personnes, à un très petit nombre de personnes. Mais voilà, malgré tout, le citoyen français moyen consomme beaucoup plus que le consommateur moyen chinois. Ça, c'est quelque chose où voilà, on stigmatise beaucoup la Chine parce que c'est le plus gros pollueur au monde. Mais la Chine produit des choses que nous, on utilise chez nous. Donc, en fait, on exporte nos gaz à effet de serre et nos pollutions en Chine. Donc, les Chinois travaillent à nous fournir de la marchandise bon marché qu'on va acheter ensuite et qui a été produite chez eux. Et donc, voilà, le citoyen européen, le citoyen occidental repose vraiment sur une pyramide dont ils ne se rendent absolument pas compte. D'infrastructures énergétiques, matérielles, minières, etc., qui est complètement hallucinante, qui est complètement unique dans l'histoire de l'humanité, et qui est un édifice qui est très fragile, hein, qui dépend d'une source d'énergie qui est non renouvelable, et qui non seulement est non renouvelable, mais qui en plus provoque des conséquences sur la biosphère, qui fait qu'on a changé d'ère géologique, tellement l'homme occidental, etc., l'homme des pays du Nord, des pays riches, a transformé son environnement à une vitesse jamais observée dans l'histoire de la Terre. Et donc, c'est très compliqué, bien sûr, de parler de décroissance si on pense aux pays émergents qui enfin goûtent à la croissance. Mais c'est un cadeau empoisonné, cette croissance. C'est un cadeau empoisonné qui fait qu'on bitume nos routes de partout, qui fait qu'on dépend d'un système agricole non soutenable parce qu'il y a du pétrole, soit par des engrais, soit par des tracteurs, soit par tout ça. Donc, il y a du pétrole de partout dans ce qu'on mange, qui fait que là aussi, c'est pas soutenable. Qui fait que, que le niveau des mers monte, tout l'édifice en fait est prêt à s'effondrer de gré ou de force.
Ouais.
Et à la limite, voilà, c'est ce que je disais donc à mon chef quand j'ai en parlé à HSBC. Lui aussi, justement, c'est son argument qui me disait, mais tu vas pas empêcher les Chinois et les Indiens de vouloir croître.
Voilà.
Je fais très bien, mais alors du coup, ok, c'est vrai que si nous on s'applique pas nous-mêmes, on commence pas à montrer l'exemple, nous qui avons tant profité des richesses du monde. Si on monte pas l'exemple en premier, c'est sûr qu'on parle dans le vent.
Ouais,
et c'est là où je disais que même à l'échelle individuelle, j'étais prêt à penser mon salaire comme décroître pour le reste de ma vie. Que voilà, ok, à 25 ans, c'est très dur pour moi, mais voilà, je pensais aller jusqu'au bout. Et en fait, non, dès maintenant, voilà, je pourquoi pas proposer à HSBC, c'est très naïf, mais voilà, pourquoi pas proposer à HSBC un plan de réduction des salaires ou de gel des salaires, et ensuite pour tous les hauts cadres qui gagnent bien leur vie, pas les ouvriers d'HSBC, dans le sanitaire, et pour tous les cadres, un plan de décroissance radicale de nos salaires ou de gel au moins des salaires fixes, etc., et variables, pour s'appliquer à nous-mêmes cette logique qu'on espère transposer ailleurs. Et évidemment, il a rigolé.
Excuse-moi, Jérémy, deux minutes. Excuse-moi, parce qu'en fait, ici, on va arriver au temps de la fin de l'émission. Donc, aux auditeurs, j'ai dit au revoir. Je vais rester. On va discuter avec Jérémy encore parce qu'on a des choses pour discuter, notamment les solutions, les possibles solutions. On va faire un podcast. Donc, ne vous tracassez pas. On va poster ça sur la page de la radio. Ne vous tracassez pas. Vous aurez toute l'émission de conversation avec Jérémy.